Radio Prague, les informations.
Bonjour, la croissance tchèque a ralenti au premier semestre de 2019. Le président Miloš Zeman poursuit sa visite officielle en Hongrie. Rudolf Sekava a battu le record tchèque de longévité après une transplantation cardiaque. Le président tchèque Miloš Zeman poursuit ce mercredi sa visite officielle de 3 jours en Hongrie. À Budapest, il a été reçu par son homologue hongrois, le président János Áder. Les deux chefs d'État ont notamment discuté de la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie automobile et dans le secteur de l'énergie, ainsi que de la lutte contre la migration illégale et le terrorisme. Jeudi, Miloš Zeman s'entretiendra avec le premier ministre Viktor Orbán et le président du Parlement, Laszlo Kövér. La Cour de justice de l'Union européenne se penche dès ce mercredi sur la plainte portée en décembre 2017 par la Commission européenne contre la République tchèque, la Pologne et la Hongrie pour un non-respect des quotas de relocalisation des réfugiés. Le verdict de la Cour de justice ne sera connu que dans plusieurs mois. L'économie tchèque a cru de 2,5% sur un an au premier trimestre de cette année contre 2,6% lors du trimestre précédent. Ces chiffres encore prévisionnels ont été publiés ce mercredi par l'Office tchèque des statistiques. La croissance intertrimestrielle du PIB a augmenté de 0,5% conformément aux attentes des analystes. Rudolf Sekava, qui est décédé vendredi dernier à l'hôpital de Jihlava à l'âge de 82 ans, a vécu 34 ans et demi avec un cœur greffé. Il a ainsi battu le record tchèque de longévité après une transplantation cardiaque. À l'époque professeur de lycée, Rudolf Sekava avait une espérance de vie de quelques mois seulement avant de subir en tant que troisième patient tchécoslovaque une transplantation au centre IKEM de Prague en octobre 1984. La première greffe cardiaque à succès a été réalisée dans l'ex-Tchécoslovaquie ainsi que dans tout le bloc soviétique en janvier de la même année. Le premier patient opéré avait passé 13 ans avec son greffon et dès lors plus de 1700 greffes du cœur ont été réalisées en République tchèque. Le groupe Lake Malawi représentera la République tchèque lors de la finale du concours Eurovision de la chanson à Tel Aviv samedi 18 mai avec leur titre Friend of a Friend. Le trio de pop alternative formé en 2013 par le chanteur-compositeur Albert Czerny a été retenu parmi les 10 meilleurs candidats à l'issue de la première demi-finale qui s'est déroulée mardi soir. L'année dernière, Mikolas Josef a obtenu le meilleur résultat jamais enregistré pour un concurrent tchèque à l'Eurovision en se classant 6e de la finale remportée par l'Israélienne Neta. Côté météo, jeudi, jour de la fête des Przemysl, le temps sera couvert et pluvieux sur la majeure partie du territoire tchèque. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. À moins de 2 semaines des élections européennes, un récent sondage montre sans grande surprise que l'Union européenne est pour le moins le cadet des soucis des Tchèques. Tentative d'explication de ce désintérêt en début d'émission. Direction ensuite la galerie La Femme au centre-ville de Prague pour une nouvelle exposition autour de la musique. Et puis dans notre rubrique historique de la semaine, nous évoquerons la censure à l'époque de la normalisation en Tchécoslovaquie. Bonne écoute à toutes et à tous. Trop abstraite, trop éloignée des préoccupations de ses citoyens, l'Union européenne n'intéresse pas les Tchèques. Telle est la conclusion très simplifiée de l'analyse d'un sondage dont les résultats ont été présentés mardi. Moins de 10% des Tchèques s'intéressaient activement à l'actualité relative au fonctionnement de l'Union. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Je pense que ce sera un peu mieux, mais pas tellement. Environ un peu plus que 20%. Naturellement, c'est la participation sur les élections en Tchéquie est toujours assez bas pour toutes les élections. Alors, dans ce contexte, le chiffre n'est pas bon, sans doute, mais n'est tellement catastrophique parce que aussi l'autre chiffre ne sont pas très bons.
Invité de Radio Prague le 1er mai dernier à l'occasion du 15e anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, l'ancien Premier ministre Vladimir Špidla s'était déclaré fataliste, reconnaissant à demi-mot le désintérêt des électeurs tchèques pour les questions européennes. Pour rappel, lors des dernières élections au Parlement européen, le taux de participation a été de 18%, soit le deuxième le plus faible parmi les 28 derrière la Slovaquie. Mais au-delà d'un scrutin qui ne mobilise pas forcément beaucoup plus les électeurs ailleurs en Europe, puisque le taux d'abstention moyen avait été de près de 57% en 2014, c'est l'ensemble de l'actualité européenne qui ne passionne guère les Tchèques. C'est du moins un des principaux enseignements qui ressort du sondage menée par l'agence Ipsos Mori sur les priorités des électeurs. Grosso modo, 15% des Tchèques seraient foncièrement pro-européens, soit autant d'électeurs disciplinés qui se rendront aux urnes les vendredis 24 et samedi 25 mai prochains pour élire leurs 21 représentants au Parlement européen. Inversement, 18% ont une opinion franchement négative des institutions et du projet européen, mais à la différence des pro-européens plus nombreux, eux ne devraient représenter que quelques 10% des électeurs. Toutefois, comme le précise le sociologue Daniel Prokop de la faculté des sciences sociales de l'université Charles, la classification n'est pas si simple.
On a pris l'habitude de ranger les gens dans deux groupes distincts, avec d'un côté ceux que l'on appelle les euro-enthousiastes et de l'autre les eurosceptiques. Mais quand vous prenez en compte toutes les questions relatives à une éventuelle sortie de l'Union européenne, aux avantages et désavantages d'être membre de l'Union européenne et au fonctionnement de l'Union européenne, vous vous apercevez qu'il existe au moins sept groupes différents. K fungování Evropské unie, tak zjistíte, že těch
skupin je kolem sedmi. Autrement dit, une grande majorité de Tchèques ont des avis plus partagés et nuancés. Les analystes sont d'ailleurs nombreux à souligner qu'à l'image de leur Premier ministre, Andrej Babiš, beaucoup de Tchèques sont avant tout de grands pragmatiques, parfois qualifiés aussi de profiteurs, des matérialistes bien conscients des avantages qui découlent de l'appartenance de leur pays à l'Union, à son marché unique et à l'espace Schengen. Le tout a un prix lui aussi très avantageux, puisque la République tchèque compte, rappelons-le, depuis son intégration en 2004, parmi les principaux bénéficiaires de la politique régionale européenne. Rien de tout cela, néanmoins, ne les pousse à s'intéresser de plus près à ce qui se mijote sous le couvercle à Bruxelles, ce qui entraîne parfois des critiques à l'encontre de Bruxelles, des critiques injustifiées, selon le recteur de l'université Palatsky à Olomouc, Jaroslav Miller.
J'avoue que cela me fait rire quand j'entends parler du diktat de Bruxelles, car la plupart des règlements de la Commission européenne sont convenus préalablement par le Conseil européen, qui est constitué par les chefs d'État ou du gouvernement des pays membres. C'est donc un fonctionnement basé sur le consensus et le compromis entre les États nationaux. Le problème est que souvent les gens ne savent pas bien quelles sont les compétences du Parlement européen, ce qu'est le Conseil européen ou la Commission. C'est la conséquence de l'incapacité de l'État, mais aussi de l'Union même, à mieux communiquer.
Ainsi donc, toujours selon le sondage en question, parmi les principaux thèmes qui intéresseraient les Tchèques avant ces élections européennes figurent l'environnement, la sécurité, le terrorisme, la migration, l'éventuelle création d'une armée européenne ou encore la double qualité des aliments, mais sans non plus que cela les passionne ou les préoccupe davantage que ça.
Comment peindre la musique? Music in Pictures, c'est le titre de la nouvelle exposition de la Galerie La Femme à Prague. Selon son commissaire Miroslav Lipena, la tradition de cette galerie d'art exclusivement tchéco-slovaque est de donner à ses artistes un devoir à la maison, chaque année sur un thème différent. Jusqu'au 31 mai, il est possible de voir à la galerie des œuvres d'artistes qui ont planché cette fois sur le thème de la musique. Sara Andrea a rencontré, entre autres, Andrea Avramopoulosova, collaboratrice de la galerie qui est revenue sur la genèse de l'exposition. On l'écoute.
Cette fois-ci, c'est aussi un festival de la ville Ostrava, le festival du compositeur Jan Hacek, qui nous a invité à participer à ce festival-là. Et donc, pour nous, c'était déjà clair qu'on choisissera ce thème-là. Parmi les autres devoirs, j'aimerais bien mentionner un particulier qui s'appelait le petit honneur à Grand Edith, c'est-à-dire à Edith Piaf, qui a été exposé à l'Institut français de Prague en 2004. Et il y avait environ ou plus de 50 auteurs qui ont participé avec ces œuvres et s'étaient inspirés par les chansons ou par la vie d'Edith Piaf. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus large. C'était, avant, c'était une chanteuse concrète, particulière. Et cette fois-ci, c'était, oui, tout le monde pouvait faire ce qu'il avait lié avec la musique en général. Il y avait des auteurs qui se sont inspirés auprès de chanteurs ou des musiciens préférés. Et puis il y avait des autres qui ont dessiné des instruments musicaux. Et il y avait aussi, comme vous l'avez dit, des artistes qui ont juste exprimé leurs impressions évoquées par la musique.
Parmi les motifs bien connus du violon et de la guitare, déclinés selon les imaginaires variés des artistes, se dissimulent aussi quelques surprises. Andrea Avramopoulosova nous fait part de ce qui l'a le plus amusé ou étonné parmi les œuvres de ce 26e Devoir à la maison.
Ce qui m'a étonné, c'est que beaucoup d'artistes ont fait des violons ou des guitares. Je pense que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous dites la femme et la musique. Parce que c'est la figure. Oui, peut-être des artistes, des œuvres anecdotiques. C'est ce qui était super drôle. C'était des œuvres faites par Victoria Banirankova et par Miroslava Madrova. Mais malheureusement, par Miroslava Madrova, il y a un sujet des renards, mais je pense que c'est compréhensible uniquement, pas uniquement, mais surtout pour les Tchèques, parce que ça symbolise des renards qui sont en moto et ils sont en train d'assister à un concours du renard. C'est un opéra par Jan Hacek. Le plus original, ce que j'ai trouvé, c'était ces œuvres anecdotiques. Mais aussi, ce qui était très impressionnant, c'était les œuvres où les artistes exprimaient leurs impressions. C'était assez joli.
Une exposition balade dans une minuscule galerie où toiles et sculptures s'entremêlent joyeusement. Le principal défi que se donne Miroslav Lipina, c'est que l'art vive et circule. Mais attention, pas n'importe quel art. Andrea Avramopoulosova nous explique le fonctionnement de cette galerie.
Nous présentons les œuvres des artistes tchèques ou des Slovaques, qui sont. Il s'agit de l'art contemporain, et la plupart d'eux sont donc encore en vie. Et l'année prochaine, nous célébrerons la 20e année de l'existence de la galerie. On s'appelle la Galerie La Femme parce qu'on est situé juste à côté de la rue, disons, avenue de Paris, Pariska. Et alors, il y a ce contexte-là. Et puis aussi, la femme en français, c'est parce que la femme du galériste, c'est le professeur du français au lycée. Et aussi, sa fille est francophone. Et puis la femme, parce que la femme, c'était depuis toujours l'inspiration dans l'art.
Pour Miroslav Lipina, il est difficile de passer outre les métissages culturels entre la France et la République tchèque. Malgré son choix d'exposer uniquement des artistes tchèques ou slovaques, la galerie La Femme n'oublie pas l'importance, en art, de balayer les frontières.
On a fait déjà plusieurs fois des symposiums en France, par exemple en Languedoc ou en Bretagne, avec nos artistes. Et on a aussi des artistes qui ont vécu à Paris ou en France en général, comme par exemple Dita Perrier, elle est installée à Lyon, je pense, Monsieur Tilek et Tilecek, qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps. Et aussi Antonin Sladek, qui n'est plus en vie aussi depuis des années. Dita Perrier, elle est toujours installée à Lyon. Et on lui fera une exposition à partir du 10 mai.
Dans la rubrique historique de Radio Prague, Pierre Maignan s'entretient aujourd'hui avec l'historien Thibaut Delex, un spécialiste de la question de la censure littéraire dans la Tchécoslovaquie communiste.
Chapitre de l'histoire.
Thibaut Delex, donc, vous êtes doctorant à l'INALCO, vous préparez une thèse sur les auteurs tchèques et polonais face à la censure entre 1968 et 1980, et l'année dernière, en 2018, vous avez publié un article dans la revue Les Cahiers Siris, la revue d'unité de recherche de la Sorbonne, sur justement ces auteurs tchèques face à la censure après 1968. Pour commencer, il y a une césure avec la répression du printemps de Prague et le début de la normalisation, quand une sorte de chape de plomb s'abat sur la société tchécoslovaque. Quel est à ce moment-là l'enjeu pour l'État tchécoslovaque, pour les communistes orthodoxes au pouvoir, de la censure littéraire?
Ce que l'on constate, c'est que on bascule dès lors en Tchécoslovaquie dans ce que l'on appelle le communisme post-totalitaire. C'est-à-dire que autant le communisme totalitaire prévoyait ou ambitionnait sincèrement de tendre vers une conquête planétaire et donc était engagé dans une forme de mobilisation totale de l'entièreté de son corps social, autant le communisme post-totalitaire a tout à fait fait le deuil de cette ambition démesurée et est exclusivement préoccupé de sa propre préservation. Ce que l'on voit à ce moment-là, c'est que dans le domaine littéraire, il va y avoir dès lors, alors la grosse difficulté du domaine littéraire, c'est qu'on ne va pas repenser une doctrine, donc on ne va pas décider que le réalisme socialiste est désormais une doctrine complètement passéiste et qu'on va lui en substituer une autre. Non, on choisit simplement d'en atténuer les formes et donc on permet une certaine dose d'inventivité formelle aux différents littérateurs, mais qui est une dose que je dirais perpétuellement réfrénée. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours procéder par expérimentation timide, qui se trouve accepté ou pas par les instances du parti. L'autre grand aspect, c'est évidemment que il va y avoir, avec la mise en place de l'État normalisateur, une gigantesque purge de tous les cadres de l'entièreté du parti communiste tchécoslovaque. Le parti se dégraisse fabuleusement. Ce qui est vrai au sein de ces structures se révèle vrai aussi dans le monde littéraire et on décide de dissoudre l'association des écrivains tchécoslovaques qui était à l'époque présidée par Jaroslav Seifert, le futur prix Nobel, et on va la reconstituer autour de la personne de Josef Kainar, qui est un poète mineur, aux alentours de 1970, et on ne va dès lors inviter au sein de cette association des écrivains tchécoslovaques que les écrivains qui se montrent suffisamment loyaux vis-à-vis du nouveau régime. Or, il était nécessaire d'appartenir à cette association des écrivains tchécoslovaques pour pouvoir prétendre à la publication dans les maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition détenues comme des monopoles par l'État.
Alors, vous montrez dans votre article, vous montrez l'emboîtement de nombreux instances de censure qui ont plusieurs effets, et j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu les effets de cet enchaînement d'instances censoriales.
À l'époque, ce qui se passe, c'est que on décide que la censure est inefficace si jamais elle doit intervenir de manière trop visible dans le texte. C'est gênant. On ne veut pas dire que l'on censure. Et donc, ce que l'on fait, c'est que on décide d'avoir une espèce d'emboîtement gigogne de toute une série d'institutions qui vont s'efforcer de systématiquement déléguer le travail de censure du texte à l'échelon inférieur. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Concrètement, ça veut dire qu'il y a le parti qui est tout puissant. Ce parti va déléguer à un comité culture la gestion de la politique culturelle, et en ce qui concerne le contrôle des textes écrits, le comité culture va mettre en place ce qu'il appelle un centre de la culture du livre. Et ce centre de la culture du livre va avoir pour mission essentielle de gérer un plan annuel d'édition de tous les ouvrages qui sont appelés à paraître. Ce plan est directement concerté avec les chefs, les rédacteurs en chef des grandes maisons d'édition, qui sont des maisons d'édition contrôlées par l'État et dont les cadres sont donc des communistes aussi sélectionnés pour leur loyauté. Et ce sont ces rédacteurs en chef des maisons d'édition étatiques qui eux-mêmes vont donner des instructions à leurs agents littéraires qui sont en contact avec les littérateurs. Il y a là une espèce de ruissellement de l'information depuis le sommet de l'État jusqu'à l'auteur, où circule donc toute une série d'instructions sur ce qu'il convient d'écrire et la façon dont il convient de le faire, qui en dernière instance sont essentiellement transmises par un agent littéraire au créateur avec lequel il est en contact. Et c'est là tout le succès de la censure que l'on a dit normalisatrice, c'est que désormais c'est l'auteur lui-même qui prend en charge l'essentiel du travail de censure de son texte, en ce qu'il se conforme tout de suite à la demande. Alors, l'un des constats que l'on fait lorsque l'on procède à des recherches sur l'archive, c'est que effectivement les protocoles de censure sont assez bien décevants parce qu'ils sont relativement vides.
L'un des effets les plus importants de ce système censorial que vous décrivez, c'est l'apparition, en parallèle au champ littéraire officiel, d'un champ littéraire clandestin qui lui fait concurrence. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les caractéristiques de ce champ littéraire clandestin ?
Le champ littéraire clandestin, ce qu'il y a de très très fort, c'est qu'il s'inscrit dans une logique de solidarité des proscrits. Ce sont toutes les personnes qui ont été rejetées du champ officiel de publication, qui se sont retrouvés désœuvrés et qui, dans un premier temps, ont continué d'écrire un peu par inertie. Puis finalement, Ivan Klima, au tournant de l'année 1972, a commencé à mettre en place des soirées littéraires chez lui, où, sous couvert de soirées privées, des gens venaient lire des extraits de manuscrits sur lesquels ils travaillaient pour l'instant. Et devant le plaisir que ces personnes ont retrouvé à pouvoir échanger leurs textes, est née l'idée de remettre en place un circuit de diffusion de ces textes où on publierait de façon tout à fait amateur, dans un premier temps, les textes pour pouvoir les faire diffuser au sein de ce qui, de plus en plus, commençait à se structurer comme la dissidence.
Thibaut Delex, cet article, vous l'avez écrit parce que vous préparez une thèse sur la question des auteurs tchèques et polonais face à la censure. Quel est l'intérêt pour vous de cette approche comparative entre les situations polonaises et tchèques ?
Alors le plus fascinant avec la censure, c'est de s'apercevoir à un moment qu'on vit avec l'illusion qu'il existerait une opposition entre des sphères discursives où fonctionne la censure et des sphères discursives qui seraient vierges de toute censure. Ça, c'est une illusion. Il y a toujours une forme de censure qui s'applique à la parole que l'on pratique. Maintenant, cette censure varie évidemment en forme, en qualité et en intensité. De commencer à étudier la censure, c'est par ricochet aussi d'étudier toute une série de formes qui, moyennant certaines mutations, existent toujours de nos jours. Alors, l'autre aspect, c'est que moi, pour des raisons personnelles, j'ai développé un intérêt un peu obsessionnel pour l'Europe centrale. Et donc le tchèque et le polonais étaient deux langues que je pratiquais et pour lesquelles je pouvais avoir un accès direct au texte dans leur version originale. Et donc, m'assurer d'avoir une lecture qui soit, je dirais, au plus près du texte et qui permette d'essayer d'y capter tout le réseau d'allusions qu'on voit s'y déployer. Et enfin, la dernière chose, c'est que la Pologne et la Tchécoslovaquie ont connu des trajectoires historiques qui présentent de de nombreuses similarités, mais qui n'en sont pas moins distinctes. Donc là, on a le luxe d'un cas d'étude relativement homogène, mais qui présente toute une série de variations qui suscitent des effets littéraires distincts et qui s'offrent dès lors bien à une analyse comparative.
Alors, si ce n'est pas trop personnel, quelles sont les causes ou les raisons de ces intérêts obsessionnels pour l'Europe centrale ?
L'histoire est parfois faite de hasard, et lorsque j'étais jeune adolescent, un professeur du collège nous avait emmenés tous à Prague. Et là, il y a eu une espèce de coup de foudre immédiat. Par la suite, j'y suis retourné vivre et j'ai travaillé comme travailleur social, en fait, dans les quartiers paupérisés à forte composante rome de Prague. Ben voilà, au contact des jeunes gens avec lesquels je travaillais, j'ai appris le tchèque. Et par la suite, je suis rentré à Bruxelles, puisque je suis d'origine belge. Et là, j'ai suivi des études de philologie slave, l'Université libre de Bruxelles. Et par la suite, j'ai rencontré ma compagne qui est elle-même polonaise. Et donc, voilà, il se fait que dès lors, je continue de vivre avec un pied ici à Bruxelles, un pied là-bas en Europe centrale. Et c'est une espèce de dialogue permanent qui structure toute ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Merci beaucoup Thibaut Delex d'avoir répondu à mes questions.
Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
C'est la fin de cette émission qui a été préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous pour le reste de l'actualité sur notre site internet pour plus d'informations et également sur les réseaux sociaux. Je vous conseille d'aller consulter notre page Facebook, mais également notre compte Twitter. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy.